recevons la grâce et l'amour de la part du Dieu de la paix intérieure, de la paix pour tous ses enfants. Levons-nous pour répondre à son appel en chantant notre première réponse avec toi, Seigneur, tous ensemble. Donc à la page 4, c'est le deuxième répond de proclamation de la grâce de Dieu. Ah, on n'entend pas trop. Trop fort. On entend trop. La la la.
Le rouge.
Non, c'est le noir.
Et là, c'est mieux.
Non,
c'est
bien.
Non, non. C'est même moins.
Et là, non, ça va pas trop. C'est métallique. C'est du métal. Là, on entend. Ah, là, c'est mieux, là. Merci beaucoup, Edith. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici. Notre consistoire, que les heures des cultes soient quelque peu modifiées, et chaque conseil presbytéral a voté pour ça, pour qu'on ait l'occasion, peut-être plus que les autres années, de participer à la commémoration officielle du 11 novembre 18. Et donc, je vous propose de prendre place, et nous aurons un moment de prière qui remplacera la suite, c'est-à-dire confession du péché, pardon et foi. C'est une prière qui est bien sûr prévue pour cette journée. Dieu plein d'amour, quand nous regardons en arrière, nous voyons des visages, des millions de visages. Visages de celles et ceux qui ont souffert et qui sont morts au cours des guerres. Visages apeurés, visage résolu, visage angoissé, visage convaincu, visage d'homme, de femme, d'enfant, visage de civil et de militaire, visage de soldat, de marin et d'aviateur. Dieu plein d'amour, quand nous regardons en arrière, nous voyons des visages connus, visages de camarades, voisins, parents, enfants, visages inconnus, d'anonymes, aperçus dans un journal, visages d'amis ou d'ennemis, visages en vie, visages de mort, visages morts. Dieu plein d'amour, dans ce temps d'armistice, nous te disons notre reconnaissance. Reconnaissance pour ceux qui ont quitté leur confort leur maison et leur famille pour accomplir leurs devoirs. Reconnaissance pour les mains qui n'ont pas hésité à prendre les armes. Reconnaissance pour les mains qui ont longuement hésité avant de prendre les armes. Reconnaissance pour les mains qui ont refusé de prendre les armes. Reconnaissance pour les voix qui ont appelé à la paix, même au milieu des combats. Reconnaissance pour ceux qui se sont battus contre le mal. Dieu plein d'amour, dans ce temps d'armistice, nous te disons notre compassion pour ceux qui ont souffert sur les champs de bataille, pour ceux qui sont morts au combat, pour ceux qui sont morts à l'arrière, pour ceux qui sont revenus blessés, meurtris ou handicapés. Compassion pour les voix qui appelaient à la paix et que l'on a obligés à se taire. Compassion pour tous ceux qui ont perdu des parents, des enfants, des amis. Compassion pour ceux qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. Compassion pour toutes les victimes de toutes les guerres. Dieu plein d'amour, dans ce temps d'armistice, nous te disons notre désespoir. Désespoir de devoir parfois régler nos conflits par la violence. Désespoir d'adopter parfois des comportements inhumains. Désespoir de parfois prendre du plaisir à se battre. Désespoir de parfois refuser de combattre pour une juste cause. Désespoir d'oublier parfois de demander la paix. Dieu plein d'amour, quand nous regardons en avant, nous voyons des visages, des milliards de visages, lumineux, heureux, apaisés. Plus de visages ennemis, mais seulement amis. Plus de visages anonymes, mais connus. Plus de visages morts, deux morts, mais seulement des visages de vie. Les visages de tous les êtres humains, enfin devenus nos prochains, enfin devenus nos sœurs et nos frères. Tous ces visages réunis dans ton royaume, dans ton règne de paix. Dieu plein d'amour, même dans les moments les plus difficiles, même dans les souffrances les plus pénibles, même dans les situations les plus risquées, même dans les combats les plus cruels, aide-nous à toujours regarder vers toi, car c'est de toi que nous vient le secours. Amen. Alors, nous pouvons nous lever pour chanter un cantique, le psaume numéro 72, « Revêt Seigneur de ta justice ». 72 en entier.
Thank you.
les Saintes Écritures. Dieu notre Père, en ce jour si lourd de signification, permet que par ton Esprit Saint, notre esprit soit vivifié, que ta parole nous appelle à la réflexion, au témoignage, au partage. Amen. Pour ce dimanche, est-ce qu'on entend bien ? Là, oui. Pour ce dimanche, vous ne serez pas étonnés, je n'ai pas pris les lectures du jour. C'est une liberté qui existe dans nos églises de la Réforme. Et pour aujourd'hui, il me semblait important... Je vais le rapprocher. Là, on entend. Hein. Ça, on l'entend. Là, si je me rapproche, c'est mieux. Merci, Edith. Voilà, il suffisait de rapprocher. Donc, pour ce dimanche, au lieu de prendre les lectures qui sont prévues dans le calendrier un peu officiel, évidemment, je propose à votre réflexion des textes un peu différents et qui, entre eux, semblent assez différents, justement. Ce sera l'occasion d'en parler au moment de la prédication. D'abord, dans l'Ancienne Alliance, nous écoutons un psaume. Ce psaume, c'est le numéro 74, psaume d'Asaph. Pourquoi Dieu rejettes-tu sans cesse? Pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple. Tu l'as acquis jadis, tu l'as racheté. Il est la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta demeure. Porte tes pas vers ces endroits constamment dévastés. L'ennemi a tout mis à mal dans le saint lieu. Tes adversaires ont rugi à l'intérieur de ton lieu sacré. Ils y ont placé pour enseigne leurs enseignes. On les a reconnus pareils à celui qui lève la cognée sur des arbres touffus. Et maintenant, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont profané à terre la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, exploitons-les tous ensemble. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux sacrés de Dieu. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusque à quand, ô Dieu, l'oppresseur déshonorera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main à ta droite? Sors-la de ton sein, extermine. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. C'est toi qui as fendu la mer par ta patience, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, c'est toi qui as écrasé les têtes du Léviathan, tu l'as donné pour nourriture à tout un peuple, aux habitants du désert. C'est toi qui as fait jaillir sources et torrents, c'est toi qui as mis à sec des fleuves intarissables. À toi le jour, à toi aussi la nuit, c'est toi qui as disposé l'astre nocturne et le soleil. C'est toi qui as fixé toutes les limites de la terre, l'été et l'hiver, c'est toi qui les as formées. Souviens-toi de ceci, l'ennemi déshonore l'Éternel. Un peuple insensé outrage ton nom. Ne livre pas l'âme de ta tourterelle aux animaux. N'oublie pas sans cesse la vie de tes malheureux. Sois attentif à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de violence. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre louent ton nom. Lève-toi, Dieu, défends ta cause. Souviens-toi du déshonneur que te fait subir l'insensé tout le jour. N'oublie pas la voix de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui se dressent contre toi. » Dans la Nouvelle Alliance, nous écoutons deux versets d'Évangile, d'abord chez Jean, selon Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et dans Luc, chapitre 12, verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Et nous concluons avec Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 14 à 17. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Et je vous propose de vous lever pour chanter un cantique, le 47-07. 47-07. Si Dieu pour nous s'engage, nous chanterons les strophes 1, 2 et 5. 47-07, 1, 2 et 5. Nous évoquerons nos textes bibliques de cette manière-là. en commençant donc par le psaume que nous avons entendu et la question du nationalisme. Ensuite, nous parlerons de ces deux versets qui ont l'air très contradictoires, de Jésus lui-même, la parole de Jésus, qui parle de la paix qu'il donne et ensuite du feu qu'il apporte. Et enfin, nous conclurons avec Paul et surtout aujourd'hui, comment revêtir les armes de l'esprit aujourd'hui. D'abord, nous avons commencé par un psaume. Vous le savez, dans la Bible juive, il y a plusieurs psaumes sur les 150 qui sont des psaumes en temps de guerre. Cela s'explique comme toujours par le contexte, qui est un contexte de guerre. Là, c'était le recueil d'Assaph. D'autres fois, vous le savez, c'est bien sûr le roi David. Et donc, il s'agit de demander à Dieu le secours et le soutien. Ces psaumes, ils ont été lus, ils ont été utilisés, pas forcément dans le sens de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit qui est là pour apporter l'unité de tous les êtres humains. Mais ils ont été lus et utilisés parfois dans nos églises à des fins, entre guillemets, un peu nationalistes. Ces psaumes des deux côtés, du côté français comme du côté du Kaiser, étaient lus dans les églises protestantes ou temples et parfois dans un but de les reprendre à notre compte, des deux côtés. Vous savez qu'il y avait même 70 nations qui ont été impliquées dans ce premier grand conflit mondial. Dieu avec nous, Gott mit uns, ce n'était pas seulement dit du côté de l'Empire allemand, hein, soyons clairs. C'était dit implicitement ou explicitement aussi du côté français, que ce soit chez les frères et sœurs catholiques romains et parfois aussi dans les églises de la Réforme. Bien sûr, c'était une autre culture. Le sens de l'État, le patriotisme, c'était pas vraiment comme aujourd'hui. Mais c'était peut-être dans un autre excès aussi. Alors oui, utiliser l'Écriture, prendre les armes de l'Esprit, c'est d'abord chercher l'Esprit de Dieu. Et dans ses souffrances, dans cette boucherie qu'a été cette guerre, eh bien, l'Esprit de Dieu a sans doute été fortement oublié. Pas par tout le monde. On sait qu'il y avait aussi des gens qui ont œuvré pour la paix, qui ont utilisé ces psaumes avec intelligence. Car que sont ces psaumes? Ces psaumes, il faut les mettre en fonction de leur propre histoire. Et on peut bien ou mal utiliser les Saintes Écritures, vous le savez. On reviendra après à l'actualité, plus tard. Lorsqu'il y a un psaume de guerre, lorsqu'on demande « extermine », demande à Dieu d'exterminer les ennemis. Ça nous fait bizarre. Mais c'est ce qui était à l'époque. Ça, c'est une prière. Ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut, lui. C'est ce que veut Assaph. C'est pas la même chose. Et c'est pas parce qu'un certain Assaph a voulu ça il y a presque 3000 ans que c'est valable pour aujourd'hui. C'est pourquoi on a besoin d'utiliser aussi l'esprit avec un E minuscule, notre intelligence, et faire de la théologie, et essayer de comprendre et comment on peut mettre pour aujourd'hui un psaume, comment on peut le mettre d'actualité. On ne peut pas prendre ce genre de psaume en l'actualisant pour dire voilà, ce qui était valable pour Israël ou Juda est valable pour mon pays. Pour quelle raison? Pour une raison très simple. C'est que c'est encore l'Ancien Testament. Il y a un peuple minoritaire, qui souffre déjà, et qui est entouré d'empires énormes, païens, etc. Mais depuis que le Christ est venu, l'Église est arrivée, l'Église universelle. Or, l'Église universelle n'est pas une nation. L'Église universelle, elle est répartie dans toutes les nations. Donc, le réflexe d'un chrétien, même si c'est normal de tenir à sa patrie, attention, j'ai pas dit ça, mais avant tout, c'est de penser aussi aux frères et sœurs chrétiens et de toute confession, et qui ne sont pas forcément de nos nationalités. Évidemment, ce n'était pas dans la culture et l'esprit pour beaucoup de gens il y a 100 ans. Israël est un peuple, c'est une nation. L'Église n'est pas un peuple, n'est pas une nation. L'Église, c'est l'égalité de tous les baptisés, de toutes les confessions et de tous les pays. C'est quelque chose qui a été voulu par le Christ. C'est quelque chose qui a été rappelé par Paul lorsque, dès le départ, il y avait des divisions entre ceux qui venaient du judaïsme et ceux qui venaient du paganisme. Ceux qui venaient du judaïsme, regardant parfois de haut les autres, disant « Oui, enfin, vous, vous étiez dans l'erreur. Nous, nous avions quand même la Torah, la vraie foi. » Ce qui est vrai, mais qui n'était pas un argument pour regarder les autres avec supériorité. Donc, les psaumes, la Bible peut être utilisée de manière nationaliste, c'est-à-dire une maladie du patriotisme. Le patriotisme, c'est normal. Qu'on défende son pays, c'est le bon sens. Croyant ou non croyant, c'est logique, on ne va pas se faire massacrer. Cependant, ça ne signifie pas que l'on doive prier, souhaiter le massacre des autres. En tant que chrétien, on prie pour ceux qui sont en guerre de tous les côtés, et pour que, bien sûr, ces guerres-là s'arrêtent. Après, il faut chercher les causes. Et les causes, vous le savez, la plupart du temps, pas toujours, la plupart du temps, ce sont les matières premières. Vous regardez en Europe, pas que la Première Guerre mondiale, mais notamment elle, les matières premières. Regardez les grandes industries en Allemagne, qu'on a récupérées un petit peu après avec le traité de Versailles en 1919. Ça explique beaucoup de choses, les matières premières, et pas l'histoire de l'attentat de Sarajevo. Parce que, vous le savez, je ne veux pas être trop long là-dessus, enfin c'est un peu le thème du jour quand même, la Première Guerre mondiale, tous les historiens s'accordent, aurait pu facilement être évitée. C'est ça qui est terrible en plus. Facilement. Parce qu'en Serbie, c'était en train de se calmer après l'attentat. Et ensuite, le tsar de Russie et le kaiser allemand ont envenimé un peu les choses. L'empereur d'Autriche-Hongrie ne voulait pas la guerre. Il ne voulait pas. La France, non plus. Mais il y a eu des choses qui se sont envenimées dans des bureaux. Et les peuples, tous ces peuples-là, ont subi les conséquences d'égo et de choses absurdes pour avoir, on compte, entre 16 et 18 millions de morts entre les civils, les soldats, etc. Donc oui, les armes de l'esprit, c'est d'abord se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, mais essayer de ne pas l'utiliser comme il nous arrange. Et c'est vrai que quand on lit ces psaumes, on est un peu dérangé par leur violence. Extermine, c'est un mot qui nous fait un peu bizarre, hein, c'est la moindre des choses. Mais, souvenons-nous, c'était à une époque où les Juifs, le peuple hébreu, n'avaient que ça, finalement, pour survivre. Mais ce n'est pas parce que c'est dans la Bible qu'on le prend hors contexte et qu'on l'utilise pour aujourd'hui. Juste un parallèle, une comparaison, et qui est plus récente. En Afrique du Sud, vous savez, jusqu'aux années 90, il y avait ce qu'on appelait l'apartheid. Il y a une église protestante, blanche, qui a été rejetée de l'Alliance réformée mondiale. On pourrait dire qu'elle a été excommuniée, parce qu'elle considérait que, selon la Bible, il y avait plusieurs races et qu'on n'avait pas à se mélanger. Mais il prenait deux, trois versets qui n'ont rien à voir dans la Torah. Hein. C'est hallucinant. Et vous avez la même chose avec le Ku Klux Klan, qui a été fondé par un méthodiste. Rien à voir avec l'église méthodiste, une église sœur, une église avec qui on travaille très bien. Hein. C'est pas la question. Pareil, vous prenez quelques versets, vous dites, regardez à tel endroit. Mais évidemment, ça, c'est pas faire de la théologie, c'est utiliser la Bible pour une idéologie politique. Donc, les psaumes, certains nous choquent, souvenons-nous qu'à cette époque, ils n'avaient que ça dans les moments de souffrance, et que ce n'est en rien un appel à les réutiliser quand ça nous arrange pour dire à l'époque c'était eux, maintenant c'est la France ou l'Allemagne ou n'importe quel autre pays. Les armes de l'esprit. Alors, nous avons entendu aussi deux paroles qui sont attribuées au Christ chez Jean et chez Luc. La première, on l'entend notamment lorsqu'il y a des cultes de consolation, on a besoin de la paix intérieure. Hein. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et oui, parce que lorsque l'on parle de ce fameux armistice, donc du 11 novembre 1918, et qui a été, L'heure, c'était aussi 11 heures exprès. Bon, ça a pris. Ça a été effectif. Ce n'est pas la paix comme le Christ la demande. Pourquoi ? Bien sûr, après 4 ans d'horreur, la fin de la guerre ne signifie pas la fin de la haine. Parce qu'il n'y avait pas forcément de haine entre les jeunes gens des deux côtés. Eux, ils ont obéi aux ordres. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais une fois qu'ils ont vu les atrocités faites par leurs camarades, une fois qu'ils ont vu les atrocités peut-être qu'ils ont commis eux-mêmes, parce qu'ils étaient obligés, parce que derrière, s'ils ne bougeaient pas, vous savez comment ça se terminait, ils étaient eux-mêmes fusillés. Hein. Bon. Eh bien, peut-être que ça a enclenché aussi des haines. Et pas peut-être, c'est sûr. Notamment du côté des vaincus. Car le 11 novembre, c'est une chose, mais ce qui a été problématique, c'est l'année d'après, avec le traité de Versailles, où, entre autres choses, il est stipulé que l'Allemagne est la seule responsable des causes de la guerre. C'est pas le texte juste, mais en fait, c'est l'esprit. Vous imaginez un peuple qui entend ça ? Que des gouvernants sont responsables, oui, et il y a des preuves de cela, mais pas le peuple. Et ainsi, les haines, presque ont commencé, ou se sont multipliées à cause de cette paix qui n'est pas une paix juste. Et bien, ça n'a pas été une paix juste, on le sait bien, puisque vous savez les conséquences 20 ans après. Entre autres, ça explique quand même, hein, en partie. La paix du Christ, elle est pour tous les êtres humains, pas pour qu'il y en ait qui soient humiliés. Il est normal qu'il y ait des réparations. Pour nous, c'était normal, puisque ça s'est passé sur notre sol. Il n'y a pas eu, je dirais, un centimètre carré du sol allemand qui a été touché. Même si on va dire, mais si l'Alsace-Moselle était allemande encore, jusqu'en 18. Effectivement, c'est à réfléchir. Ça a été chez nous. Il y a certains villages qui n'existent plus, qui ont été rasés. C'était normal qu'il y ait des réparations. Mais il y a une différence entre les réparations et dire, vous tous, vous êtes fautifs, vous tous, tout le peuple allemand. Ça, évidemment, ce n'est pas un comportement chrétien, mais ce n'était pas la base de ce qui intéressait nos élites militaires et politiques d'avoir un comportement chrétien. Il y en a eu des chrétiens qui ont essayé de faire des choses de tous les côtés. Et je prends juste un seul exemple parce que j'aime bien l'histoire. On a un dialogue diplomatique entre le président américain Wilson, donc un protestant, et l'évêque de Rome, Benoît XV, forcément catholique, parce que c'est le pape. On a des dialogues pour que la paix qui sera signée, au départ c'était voulu pour 17, puis ça arrivait ensuite en 18, soit une paix équitable. On a les textes des 14 points de Wilson. Ça n'a pas été repris en 19, hein, avec le traité de Versailles. Et c'est ainsi qu'on a des textes de ces gens pour dire, c'est une catastrophe, ça ne pourra pas marcher, on a semé quelque part les graines d'une future guerre. Et ça, vous avez bien sûr Wilson, et puis vous avez le futur Pie XII, qui lui aura la Deuxième Guerre mondiale, qui dit la même chose. C'est une catastrophe, cette paix de Versailles de 19. La paix du Christ n'est pas une paix pour humilier. Il faut avoir le respect d'abord de l'adversaire. C'est quelque chose qui a existé dans nos civilisations. Dans certaines guerres, il y avait le respect de ceux qui avaient été vaincus. On a des exemples quand même où c'était plus, je dirais, chevaleresque, plus, il y avait plus de respect au nom des valeurs chrétiennes. C'est arrivé aussi, quelquefois. Mais là, cette guerre, qui est une horreur et qui a tué des gens dans tous les villages chez nous, et en Allemagne aussi, et des morts de tous les côtés, eh bien, n'est pas la paix du Christ. La paix du Christ, elle est pour tous les êtres humains, pas pour une partie. Pas pour celle qui nous ferait plaisir, et pas pour récupérer des richesses après, et récupérer des milliards de réparations qui sont franchement exagérées. Après, ça se retourne contre nous. D'ailleurs, ça a été le cas. Mais nous avons quand même entendu un verset qui peut nous poser problème, et qui lui aussi peut être utilisé sans esprit critique, et bien sûr, sans l'Esprit Saint. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Ça, ça fait partie de ces versets qui ont été utilisés, par exemple, lors des colonisations, notamment des conquistadors. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Le Christ, en fait, parle des conséquences de la foi. C'est détaillé ensuite, c'est la division, notamment, vous savez, dans les familles. La foi chrétienne ne fait pas l'unanimité. D'ailleurs, elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. Ce n'est pas la démagogie, la foi chrétienne. Alors, évidemment, ce feu qui est jeté, ce n'est pas un feu pour détruire. D'abord, le feu dans la Bible a parfois des connotations positives, pas que négatives. C'est le feu de l'Esprit. L'Esprit Saint, vous savez, à la Pentecôte, des langues de feu. Donc, il y a quelque chose qui remplit l'être humain de joie, d'enthousiasme. C'est pourquoi, dans la théologie chrétienne en général, on dit que la foi est donnée par le Saint-Esprit. Ensuite, étant donné qu'on n'est pas des robots, eh bien c'est à nous de cultiver cette flamme chaque jour par notre responsabilité de chrétien. Donc quand le Christ dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre », ça n'a rien à voir avec un lance-flamme pour brûler des gens. Qu'on soit clair avec ça. Là encore, la Bible peut être bien ou mal utilisée. Ça dépend dans quel esprit on se place et si on est à l'écoute de l'Esprit Saint. Ce qui est la question pour la question des armes, ça c'est Éphésiens qui répond un petit peu. L'apôtre Paul, vous savez, est un excellent écrivain, il a beaucoup d'imagination, alors il fait une comparaison, voilà. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Il précise là. Le bouclier de la foi pour combattre, non pas des êtres humains, mais le malin, c'est-à-dire l'esprit de division à l'intérieur de l'homme. L'esprit de division, forcément les conséquences, c'est entre les êtres humains, entre les nations, etc. Le casque du salut est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée, c'est pas pour tuer, hein, cette épée-là. Cette épée-là, c'est pour unir les gens et pour les faire réfléchir. Puisque la parole de Dieu, c'est pas toujours simple. C'était pour faire réfléchir. Donc, prenons les armes de l'esprit. Encore une fois, en tant que chrétien, on est d'abord chrétien et ensuite on a une nationalité. C'est normal, ensuite chacun fait son devoir en temps de guerre, notamment une guerre où on est agressé. C'est la logique des choses que de répondre à cet appel-là. Cependant, voyons aujourd'hui, je termine par là. Les armes de l'esprit. Avec un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est qu'aujourd'hui même, grâce aux armes, non pas qui tuent, mais les armes de l'Esprit Saint, il y a des chrétiens qui bouleversent les choses et qui risquent parfois leur vie, en tout cas la prison, au sûr. Je prends simplement l'exemple de la Chine. Vous avez des pays, ceux qui ne sont pas franchement des démocraties, hein, bon, eh bien le christianisme augmente. Et le christianisme fait peur à ces dictatures de ce style-là. Pourquoi il fait peur? Ce n'est pas un État dans l'État. Ces chrétiens, vous croyez qu'ils ont des kalachnikovs dans les caves, dans les sous-sols des lieux où ils font leur culte ou leur messe? Non, bien sûr que non. Ce sont des Chinois patriotes. Ils aiment leur pays, comme les autres. Mais ce qu'ils annoncent, ça ne passe pas. Ce qu'ils annoncent, c'est la paix, c'est l'amour du prochain. C'est une forme d'égalité, c'est la priorité peut-être pour les plus pauvres, et pas seulement pour ceux qui veulent accumuler des richesses dans des paradis fiscaux, par exemple. Alors là, oui, ça bouscule un système. Ils sont peu nombreux. Tout de même, ils doivent être entre 80 et 100 millions. Bien sûr, dans un pays, 1,4 milliard ou 1,5 milliard, je ne sais plus. Mais bon, ça augmente proportionnellement par rapport au nombre d'habitants. Le christianisme augmente en Chine. Et vous voyez quelles sont leurs armes. Ils risquent parfois ces 15 ans de prison pour se balader dans la rue avec une Bible. Ah, on voit Bible, 15 ans de prison. Et l'ACAT, vous savez, cette association œcuménique pour l'abolition de la torture, eh bien, œuvre pour aider ces gens-là. Je parlais de la Chine parce que c'est un exemple qui, je suis sûr de ce que j'avance, pas inventer des choses. Donc les armes de l'esprit, elles peuvent faire bouger les choses. Après, il y a l'inverse. Il y a des chrétiens qui, soi-disant au nom de leur foi, n'utilisent pas les armes de l'esprit avec un E majuscule, mais je dirais les armes de leur petitesse et de leur malhonnêteté. C'est le cas pour le Brésil. Le Brésil, vous savez les nouvelles, il y a un nouveau président qui se dit chrétien, qui est soutenu par des églises dites évangélique, Et quand on voit, quand on entend ses discours, quand on voit sa manière d'être et de faire, c'est honteux. Et je dirais que nous avons à répondre, nous, pourquoi ? Parce que vous savez bien que dans notre pays, le niveau de connaissance religieuse est affligeant, et que donc, ça va nous arriver dessus. Ah, c'est protestant, hein, c'est vous, hein. C'est ce qui s'est passé à l'époque de George Bush Jr., quand il y a eu l'invasion, parce que c'est pas une guerre, c'est une invasion, en Irak, en 2003. Moi, j'ai entendu des gens, et pourtant c'était un Alsace, hein, qui me disaient « Ah mais oui, Bush, c'est vous, hein, c'est protestant, quoi, c'est la même chose. » Puis d'abord, tout président américain, sauf Kennedy, était protestant. Donc déjà, le groupe de Bush Jr., ça ne marche pas, ils le sont tous. Et ensuite, il faut voir la branche. Quelle branche du protestantisme vous parlez ? C'est pas parce qu'on fait des heures de prière et qu'on se met à moitié en transe, et là l'actuel président brésilien c'est ça, devant des caméras, vous entendez ensuite les paroles, c'est pas pacifique du tout, hein. Ça n'a rien de quelqu'un de paisible. Elle est où la paix du Christ là-dedans ? Bien sûr qu'il faut de l'ordre dans un pays quand vous avez un trafic de drogue énorme. Ça, c'est normal qu'il fasse le ménage. Mais il y a l'art et la manière tout de même. Il y a des mots qui sont très violents dans son vocabulaire. Et pour toutes sortes de personnes. Toutes sortes. Et pas forcément les personnes qui sont les plus appréciées en plus. Non, ce sont des choses graves. Nous devons dire, pour reprendre une formule chère à certains musulmans, pas en mon nom. Vous savez, depuis qu'il y a eu des attentats, pas qu'en France, hein, depuis quelques années, sur Internet, ont circulé énormément de vidéos de musulmans, jeunes ou moins jeunes, et qui avaient un panneau « Not in my name », pas en mon nom. C'est-à-dire, des gens qui disent « Moi, je suis musulman », et qu'on ne dise pas que les attentats, c'est l'islam, c'est pas vrai. Ben, nous aussi, sous une autre manière, on doit bien dire les choses. C'est pas parce que des gens se disent protestants, évangéliques, chrétiens, que c'est en notre nom non plus. Nous désapprouvons clairement ces personnes qui utilisent l'évangile, parce que c'est ça quand même, qui utilisent l'évangile et qui deux minutes après disent « Super, on va augmenter les armes ». Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est se moquer du monde. On a trouvé pire que le président du pays qui est un peu plus au nord. Enfin, c'est quand même lamentable. Donc des gens qui se prétendent chrétiens et chrétiens soi-disant évangéliques, donc protestants quand ça les arrange, hein, qui sont protestants quand ça les arrange, eh bien non, pas en notre nom. Nous devons dénoncer cela, utiliser les armes de l'esprit, et dire que c'est pas parce qu'on est en transe, en prière, que l'on est forcément un disciple de Jésus le Christ. Parfois, on utilise la Bible, on utilise le nom de Dieu, on utilise le nom de l'Esprit Saint, pour en faire passer nos propres idées. Ça, c'est de la malhonnêteté, et je dirais c'est grave, même par rapport à Dieu lui-même. Donc, que Dieu nous soit en aide pour chercher toujours à nous mettre au service de cet esprit qui apporte le feu, non pas un feu qui tue, mais le feu de l'enthousiasme, de la foi, et que nous puissions toujours utiliser notre esprit avec un E minuscule pour chercher dans la Bible, pourquoi des textes parfois difficiles ont été écrits et surtout comment on peut les utiliser ou pas aujourd'hui. Amen. Le 47. 47-15, c'est par la foi que devant nous, 47-15. Alors nous pouvons prendre à la page 6 de notre magnifique livret consistorial, tout en haut, au Seigneur, tu nous as fait voir. Page 6. Quelques annonces. D'abord, merci à Eliane pour ton accompagnement musical. Alors, peut-être, si vous n'êtes pas au courant, hier, il y a eu un culte de consolation, un service ici, après le décès de Madame Garde.
Bienvenue, d'accord.
Pourquoi je dis Garde?
Parce que c'est la fille qui s'appelle Madame Garde.
Ah, c'est pour ça, d'accord. Parce que je pensais à Romain, alors du coup...
Non, c'est sa grand-mère.
Ah, c'est la grand-mère, voilà. Ben, merci. Donc c'était une autre communauté qui est venue ici pour ce moment rituel. Vous savez que ça arrive qu'on nous demande de prêter le temple. En ce genre d'occasion, évidemment, le conseil dit tout de suite oui. C'est logique. Donc bien sûr, aujourd'hui, après le culte, chacun est invité, s'il le souhaite, à participer tout à l'heure à la commémoration. C'est, me semble-t-il, à 11h30 que le départ a lieu à la place de la République. Ça laisse ainsi un peu de temps. C'est pour ça que le culte exceptionnellement aujourd'hui était à 10h. Mais évidemment, c'est tellement exceptionnel, ce changement d'horaire. Voilà. Mais on l'a fait dans un esprit aussi consistorial. Et pour que chacun puisse participer, et comme je l'avais dit déjà à une ou deux reprises, je trouvais ça beau que ça ait été proposé par la pasteur du Chambon, Esther Villante-Marais, qui est d'origine allemande. Vous trouvez que ça ne manque pas de beauté, hein, que ce soit elle. Moi, j'avais envie de le proposer, hein, mais je ne serais pas permis de le faire. Mais on se dit, bon, laisse tomber, j'arrive en retard, c'est pas grave. Mais que ce soit elle qui le propose, ça m'a fait plaisir, mais je trouve que le symbole est fort. Voilà. Donc, pour la semaine qui arrive, mercredi à 20h, étude biblique au Chambon, donc la salle Bastiano sur la création, avec Rabbi, le pasteur Rabbi Nicolas. Oui, Rabbi, c'est un prénom particulier. Hein. Bon. Donc, en fait, juste l'étude biblique cette année, comment ça se passe pour le plateau? On tourne Bastiano, la Grangette ou le presbytère de danse, une fois par mois, un mercredi de 20h à 21h30. Et Rabbi commence, donc fait septembre, octobre, novembre, je crois que c'est ça, oui. Ou novembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça. Aline est fidèle, comme toujours. Octobre, novembre, décembre sur la création avec Rabbi. Ensuite, il y aura 3 mois, c'est moi qui m'en occupe sur le thème du témoignage. Et enfin, les 3 derniers mois avec Esther sur le thème que j'ai oublié. Un jour, je m'en rappellerai. Donc, mercredi 20h au Chambon. Vendredi, c'est le conseil d'administration de l'entraide protestante. On a eu la joie d'ailleurs de se voir vendredi soir. Après le CP, on a eu un repas ensemble, l'occasion de parler de la brocante, de la journée, etc. Samedi prochain, catéchisme de 10h à midi, ou plutôt de 10h à 11h30, parce qu'on va changer un peu les horaires. 18h, culte à Saint-Georges d'Andorre, samedi prochain. Et dimanche prochain, lors du culte ici même à 10h30, ce sera le baptême d'Arthur Simonetti. S'il y a d'autres annonces, vous les trouverez dans le journal paroissial et puis dans Réveil aussi. Parce que dans Réveil, vous avez quelques annonces, enfin, ou plutôt ce qui s'est passé, mais vous avez aussi des articles très intéressants. Quel que soit le mois, vraiment, ça apporte quelque chose à la réflexion, ce journal-là. Mais maintenant, c'est le temps de l'offrande. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier pour la paix, d'abord celle qui est dans nos cœurs, afin que nous puissions la partager et que nous puissions chaque jour être à l'écoute de l'Esprit, de ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Et que nous puissions témoigner de notre foi avec enthousiasme et intelligence, avec recherche de la vérité chaque jour et partage de ce trésor. Éternel notre Dieu, en ce temps de commémoration, nous ne voulons pas oublier le présent. Nous te confions tous ceux qui ont à subir des actes de guerre, parfois de barbarie, en ce présent. Nous voulons te confier tous les artisans de paix, quelles que soient leurs convictions, leurs motivations, afin que l'avenir soit un peu meilleur. Nous te confions les gouvernants, leurs décisions et leurs conséquences. Seigneur, nous te prions afin qu'ici même, nous poursuivions nos œuvres de partage, de compréhension, de réflexion sur ce monde si particulier. Permets que nous puissions anticiper les éventuels débordements ou violence dans l'avenir. Seigneur, nous te prions pour la paix entre les peuples, mais aussi au sein de notre patrie, afin que nous puissions être des citoyens utiles au bien commun et que la bonne nouvelle soit notre étendard. Que la paix entre les chrétiens puisse se poursuivre, mais aussi que nous puissions toujours dénoncer les injustices et particulièrement celles qui se font ou se feraient au nom de la foi. Seigneur, nous te prions pour nos communautés, pour les personnes fatiguées ou malades, ou dans des espoirs. Nous te prions pour les familles en deuil. Nous te prions pour l'unité des familles et que chacun, chacune puisse recevoir une parole de soutien, d'encouragement dans les moments d'épreuve. Seigneur, à travers l'Église et tous les autres participants, poursuis l'œuvre d'accueil, d'écoute, de soutien. Et ensemble, nous pouvons dire maintenant la prière du Seigneur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Lorsqu'il était question tout à l'heure d'évoquer la priorité de la foi, c'est-à-dire de l'Église universelle sur la question des nationalités, eh bien vous voyez, c'est ce que nous disons à chaque fois dans le Notre Père, que ton règne, c'est-à-dire ton gouvernement, pas le gouvernement d'un pays ou d'un autre, même si tout pays a besoin évidemment de gouvernants, mais le plus important, c'est ce règne de Dieu, qui n'est pas un règne tyrannique, qui n'est pas un règne des forces de l'argent, mais qui est un règne qui met tout le monde à égalité, et tout le monde est aimé personnellement et collectivement. Ça, c'est le but de l'Église, comme je le dis souvent, que l'Église universelle soit un petit échantillon du royaume de Dieu, échantillon imparfait, mais que les autres puissent voir à travers nous quelque chose de ce royaume de Dieu. Ça fait partie de notre mission, et dans ces missions si compliquées, Dieu ne nous laisse jamais tomber. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui vous bénit, qui vous garde, qui vous encourage. Amen. Et nous pouvons chanter tout en bas de la page 7. Tu nous appelles à t'aimer, en bas de la page 7.
Thank you.
seulement en tant que chrétien, mais aussi en tant que citoyen tout à l'heure, pour un moment de recueillement civique, ou en tant que chrétien, nous pensons aux morts de tous les côtés, et pas que du nôtre, évidemment. Moment solennel, et puis peut-être on se verra aussi d'autres fois.